Torréfaction est un podcast Geekzone rendu possible par le généreux soutien de nos abonnés Patreon. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la production de nos podcasts, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 291e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec un petit tour de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Est-ce que ça va mieux, Caféine?
Mais oui, super. Ça va génial.
C'est le petit bilan des vieux en début d'émission.
Bah écoute, moi cette semaine, les gars, j'ai appris qu'on pouvait fracturer une dent. Voilà, c'est deux mots qui n'allaient pas ensemble dans mon vocabulaire. J'avais cassé, machin, et j'ai appris que sur les dents, on peut leur faire plein de trucs. Hein. Mm-hmm. En fait, il peut se passer plein de choses dans ta bouche. Voilà, moi j'aime bien, je vais vous épargner les détails, mais oui, bah voilà, j'ai une dent fracturée. Elle tient avec du métal qui est soudé derrière les dents, et après, bah, va falloir l'enlever, ça va être génial. Et donc, j'avais réparé cette dent, c'est pour ça qu'elle était un peu fragile. Et j'ai découvert, enfin, je le savais déjà, évidemment, hein, mais qu'en fait, il vaut mieux acheter une 4090 dans sa vie que de fracturer une dent, en fait. Hein. Et j'ai bien dit 4090, hein, parce que les prix des trucs chez les dentistes,
Non, ça rigole pas. Hein. Moi, j'ai pris une assurance complémentaire spécialement pour ça, en prévision, en me disant, oui, non, ça va pas être possible.
Ah, moi, j'ai vu les nuages directs, la stratosphère et tout. Et en fait, ce que moi, je trouve fabuleux, c'est que les gars t'annoncent les tarifs, il n'y a pas un œil qui cligne. Hein. Tout est normal. On ne prévient pas, c'est genre surprise bad sex. Et c'est vraiment incroyable. Donc voilà, je me régale, je le prends avec humour, hein, les amis. Car nous n'avons pas le choix.
C'est un peu ça aussi, oui. On est fataliste.
Voilà, c'est ça où je garde un sourire de pirate scorbuté. Et je me suis dit que niveau style, ça peut être rigolo deux minutes, mais c'est pas incroyable. Quoi. Ouais. Donc bon, voilà, je m'éclate. Sinon, ça va. Hein.
Allez, alors on va attaquer la conduite de cette semaine. On part avec le gaming et avec une histoire de réseau côté Nintendo, enfin de serveur plutôt côté
Nintendo.
Ouais,
de serveur, car Nintendo, pareil, hein, Nintendo, tu sais, magnanime, on aime donner de l'argent, tout ça. Enfin, on aime surtout en gagner finalement chez Mario. Et donc ils ont décidé que la fête était terminée, qu'il était temps de fermer les serveurs permettant de jouer aux jeux online de la Wii U et de la 3DS. Ça fait 12 ans que c'est en ligne, il devait rester quelques centaines de personnes, ils ont fait, ça dégage. C'était prévu depuis un moment, hein, sinon ils n'ont pas pris les gens par surprise. Nintendo avait donc annoncé la fermeture pour le 8 avril, et voilà, il y a quand même des gens qui se sont réunis en disant « Non, on veut continuer à jouer à Mario Kart !» À Splatoon, il y a une grosse communauté, enfin grosse évidemment, tout est relatif, mais il y a une communauté sur Splatoon, bruyante, et puis surtout, voilà, c'était un petit jeu que les mecs aimaient bien. Il y a des gens qui préfèrent cette version à la version, c'est une grosse IP mine de rien Splatoon, donc il y a des gens qui préfèrent cette version à la version Switch, et du coup, comment tu fais? Il y a un problème aussi de préservation du patrimoine jeu vidéo. Donc du coup, il y a un projet qui existe depuis un moment, c'est plus qu'un projet, qui est vraiment hyper impressionnant, qui s'appelle Pretendo.
Okay.
Alors Pretendo, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un site web tellement classe que tu crois que c'est un truc pro de Startup Nation 2.0. Je sais pas si tu peux aller voir, mais les mecs, ils ont fait un truc.
Oui, j'ai vu, ouais. C'est super clean.
C'est super clean. Moi, j'ai vu des sites de vraies boîtes qui étaient moins bien faits que ça, avec des visuels moins réussis. Qui est en fait un système qui te permet de te connecter avec des 3DS et des Wii U totalement hackés, évidemment, hein, sur un réseau qui ne dépend pas du tout de Nintendo, et donc de jouer avec tous les titres online directement sur ce réseau Pretendo. D'ailleurs, je trouve le nom très très bien trouvé. Bravo à eux. Donc, je vous ai linké la page de Pretendo, une vidéo de MVG. Donc, MVG, c'est un mec qui s'appelle Modern Vintage Gamer, qui fait des vidéos, qui est un dev, en fait, qui a un channel rétro gaming sur YouTube depuis des années, qui est relativement intéressant. Et puis, les tutos de hacking de 3DS et de Wii U, parce que pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On va pas se priver, surtout que c'est extrêmement simple et très pratique pour plein de raisons. Donc, je vous laisse regarder tout ça et vous connecter si vous avez envie d'aller voir s'il y a des mondes pour jouer non seulement sur des vieilles plateformes, mais en plus avec des trucs hackés sur un réseau non officiel.
Ouais.
Vous serez surpris de voir qu'il y a du monde. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Voilà.
Et on va parler de Stellar Blade.
Dont t'as pas du tout suivi l'actualité, j'imagine.
Pas trop, non.
Car toi, les jeux d'action coréens, ça doit être ton truc.
Mais surtout PS5, tu vois, donc j'en ai pas.
Alors, voilà, c'était pas PS5 quand ça a été annoncé. Ah. Il faut se rappeler que c'était un truc qui s'appelait Project Eve. On avait vu ça débarquer sur une vidéo il y a 1000 ans. Mm-hmm. Et c'était clairement une espèce de... Voilà, oh là, je vais faire des comparos, ça va trigger des gens, mais tu vois, une sorte de Bayonetta futuriste, mm-hmm. de Nier Automata, par exemple. T'as une petite vibe comme ça. Et c'est un jeu qui était relativement sexy techniquement, mm-hmm. à l'époque. Et puis Sony s'est dit, attends... Ça a l'air pas mal, ça. Et on n'a pas beaucoup d'exclus. Donc, ils ont été voir les développeurs, qui s'appellent Shift Up, c'est les Coréens, donc. Et ils ont Ninja l'exclu pour la PS5. C'est pour ça que, bah, depuis, ça s'appelle Stellar Blade. Et si t'as pas de PS5, t'es en mode Joseph, puisque... voilà, donc ça sort le 26 avril. Mais il y a une démo qui est disponible depuis le 29 mars et qui fait parler d'elle, parce qu'en plus, t'as un mode donc, qui s'appelle Skin Suite, où elle a une espèce de... Voilà, elle est à poil, en fait, mais pas vraiment, puisque c'est un costume, si tu veux. Bon, un peu couleur peau, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que ça s'appelle un skin suit. Mais ils sont assez rigolos, puisque c'est un peu associé au fait qu'elle a plus d'armure. Donc, le jeu devient super. C'est le hard mode, si tu veux. Mmh. Et les gens ont voulu refaire la démo en mode, genre, bah, en débloquant ce truc-là, en mode, genre, non, mais moi, j'ai fini la démo, c'est bon, ça va pas être beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Donc les gens sont en train de souffrir. Je vous ai linké la news qui parle du truc. Justement, il vous explique comment débloquer la chose. Et si vous avez une PS5 et que vous aimez bien ce genre de jeu, normalement, vous avez déjà vu le truc puisque la démo est dispo depuis le 29 mars. Mm-hmm. Mais bizarrement, comme la promo autour du jeu n'est pas non plus incroyable, il y a plein de gens qui sont passés à côté. Donc, je me suis dit que c'était pas plus mal d'en reparler.
Et puis, tu voulais nous parler aussi de la Triple I Initiative. C'est quoi, c'est un showcase de jeux indé?
Ouais, c'est okay. Ça, exactement, avec beaucoup de jeux en très peu de temps. Je vous ai linké les news de nos amis de chez Ars Technica et The Verge, qui ont fait, surtout chez The Verge, un très bon travail avec non seulement la vidéo de 45 minutes complète, mais aussi les trailers individuels avec une sélection des plus intéressants. Parce qu'il faut savoir qu'en 45 minutes, les mecs ont présenté 30 trailers ou teasers de jeux indés, tu vois.
Mmh, pas mal.
Donc forcément, tout n'était pas hyper intéressant. Il y avait aussi pas mal de DLC, de choses que bon, voilà, c'est pas non plus incroyable. Et puis, il y avait quand même des annonces très, très sympas. Donc, faut faire le tri. Alors, ce qui est très sympa dans ce genre d'exercice, c'est que tu as pas du tout de fluff corporate, tu vois. C'est pas les présentations au Stripot. Oui, on est extraordinaire. Non, là, les mecs sont là pour présenter des jeux, ça trace, et ça fait plaisir.
C'est pas le show, notre ami Jeff.
C'est pas Jeff et ses amis. Jeff and Friends. On se retrouve du coup avec des annonces rigolotes du style une collaboration Vampire Survivor Contra. Oui, Contra, le vieux jeu de tir. Okay. Bah ouais, moi non plus, j'étais pas prêt. Ça va s'appeler Vampire Survivor Operation Guns. Le S était pas au bon endroit. Vous allez avoir 11 nouveaux persos, 22 nouvelles armes, des nouveaux décors. Il y en aura même avec, bah évidemment... Contra oblige, on va avoir un scrolling horizontal avec. Mm-hmm. Et on va avoir plein de musique remixée dans la vraie vibe Bullet Hell, puisque là, on va vous redonner un petit peu les habitudes de ces jeux-là, tu vois, où il faut te stresser avec la musique.
Parce que le jeu te stresse pas assez.
Bah ouais, ça va marcher très très bien. Vous allez avoir donc des persos qui tirent partout au lieu d'envoyer des sorts, etc. Fondamentalement, ça change pas grand-chose au gameplay, mais ça sera relativement rigolo, j'imagine. Ça sort le 9 mai, donc ça fait partie des trucs qui étaient annoncés. Il y a aussi V Rising qui sort enfin d'Early Access le 8 mai, dont ils annonçaient un peu toutes les nouveautés qui allaient sortir avec la 1.0. Dans le tas, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'ils ont enfin réussi à avoir la licence Castlevania et ils ont donc notre ami Simon Belmont directement dans le jeu.
Okay.
Ce qui n'était pas le cas avant. V Rising, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un excellent titre. Si vous voulez regarder ce jeu où il y a de la construction et de l'action à gogo, ça sera le moment, puisque c'est pareil, ça sort donc, comme je le disais, le 8 mai. Ensuite, on a aussi une annonce que moi, j'attendais pas. Je savais même pas qu'il y avait une suite en développement qui s'appelle Hyper Light Breaker, qui va sortir cet été et qui est donc la suite de Hyper Light Drifter. Et ils ont fait comme certains autres jeux indés, c'est-à-dire qu'on passe d'une vue un peu cheapos, mais très réussie en pixel art de dessus, à un vrai jeu en 3D. Un peu comme Risk of Rain, quoi. Et là, on a un truc qui a l'air assez, comment dirais-je, il va pas falloir dormir pendant le jeu. Donc le trailer dure une minute, vous allez voir que ça fait partie des jeux qui, à mon avis, vont être assez attendus suite à cette grosse vidéo de nos amis de Triple I Initiative. Et puis l'autre truc dont j'ai absolument rien à foutre, mais je sais qu'il y a des gens qui sont hyper intéressés, Slay the Spire 2. est annoncé. Donc il y a un trailer, allez voir. J'ai pas du tout accroché au 1, donc je vais pas vous vendre le truc. Donc ça, ça c'est vraiment le un peu les gros morceaux qu'il y avait. Mais en fonction de vos, comment dirais-je, vos préférences, en fonction de vos affinités, vous allez voir que il y a peut-être plein de DLC ou de nouveaux jeux qui vont vous taper dans l'œil. Encore une fois, il y en avait 30 en 45 minutes. On va pas tous les passer en revue, mais il y en a un qu'on est obligé de présenter, mon ami.
Oui.
Facile.
Oui, dans la série Ubisoft continue d'essorer, ça y est, ils ont accéléré encore la vitesse, là, puisque on a encore un nouveau Prince of Persia.
Ouais, c'est clairement l'année Prince of Persia, mon ami. Hein. donc, le 14 mai, en Early Access sur Steam, nous avons The Rogue Prince of Persia. Mm-hmm. Ne pas confondre avec donc celui qui est sorti sur console et PC, déjà, qui n'a rien à voir, alors que c'est très, très proche hein, d'un point de vue gameplay, on va pas se mentir. Donc là, on a un reveal trailer et on se retrouve avec un jeu qui est en fait pas du tout fait par les équipes d'Ubisoft interne, mais par Evil Empire, les gens qui ont fait Dead Cell.
Ah oui.
Donc ça reste français, ça reste extrêmement... on est sur la vibe Dead Cell, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais on n'est pas du tout sur la même patte graphique, puisque là on passe sur un style qui est plutôt Euro Comic Book, il paraît. Voilà. Hein. Moi j'aime pas trop, je préfère le style pixel art. Mais le gameplay apparemment, pour les gens qui ont essayé, je crois que les testeurs ont pu y jouer une demi-heure, un truc comme ça. On est vraiment sur un feeling qui est très 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 proche de Dead Cell, avec le même style de nervosité, les impacts, etc. Donc potentiellement ça peut être très très bien, mais du coup on est moins sur un platformer Metroidvania hein, que The Lost Crown. C'était c'est un autre délire, le Prince of Persia qui est sorti avant, même si bah visuellement forcément hein, si vous regardez vite fait deux screenshots de loin, vous allez vous dire oulala, mais c'est pas du tout le même jeu, mais ça a l'air d'être le même jeu quand même.
C'est ça.
Non, c'est juste que bah je sais pas, cette année les planètes se sont alignées, il y a rien eu sur la licence pendant des années et là on a deux jeux de suite. Me demandez pas pourquoi. Je sais que ça doit faire très plaisir à Jordan Mechner, qui a jamais été aussi actif sur les réseaux sociaux qu'en ce moment, parce qu'en plus il a sorti un bouquin sur l'histoire de sa life en même temps. Donc le mec est en mode full promo depuis 6 mois là, il se régale.
Et puis on passe du côté des apps avec Google Find My Device.
Oui, alors c'est juste un truc qu'on attendait depuis très très longtemps chez Google, puisque ça a été annoncé il y a un moment, mais techniquement c'est pas trivial à faire. Mais ils ont réussi à avoir un système qui ressemble très fortement à ce qui existe chez Apple depuis très très longtemps, puis ça s'appelle la fonction localisée hein, chez Apple, en français. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir localiser tous vos produits qui sont inscrits sur ce service-là, même s'ils sont offline, en tout cas vous aurez la dernière détection, et vous aurez un balisage passif sur les produits qui sont équipés de ce genre de trucs. Donc ça passe par le Wi-Fi, la connexion cellulaire, le Bluetooth. Tout est utilisé en fait pour faire un maillage quand votre produit perdu, entre guillemets, pour pas dire volé, passe à proximité d'un truc qui est dans ce réseau-là, bah vous aurez directement la possibilité de voir où il est et de le retrouver. Mais généralement, c'est déjà pas mal pour retrouver ces trucs à nous. Hein. Bon, voilà. Après, faut faire gaffe. Des fois, c'est un peu pénible. Moi, par exemple, quand je suis au taf et que je laisse tout au boulot et que j'ai tous mes AirTags dans mes différents trucs, je pars bouffer, ça, mon téléphone me fait « Ah ! T'as oublié plein de trucs !» Oui, bah, je vais pas partir avec tout sur le dos. On se calme, tout va bien. Donc, c'est assez rigolo. C'est déjà dispo aux États-Unis et ça devrait être en place dans le courant de l'année chez nous avec plein d'autres pays. Donc, voilà, je sais que si vous êtes pas du tout dans l'environnement Apple, c'est un truc que les gens attendaient puisque ça reste quand même très pratique, même simplement pour la paix de l'esprit. Hein. Donc, ça manquait un petit peu à l'arsenal Google. C'est une bonne nouvelle.
Et puis des news du côté de Deezer qui supprime une bonne partie, enfin une bonne partie, une grosse partie quand même de son catalogue.
Bah oui, 13%, c'est pas rien.
C'est pas rien, oui, non, c'est clair.
13% du catalogue, quand tu vois la news, tu fais genre, bah les gars, qu'est-ce qui se passe? Après, quand tu sais ce qu'il y a sur les plateformes de streaming, en fait, c'est vachement plus simple à comprendre.
Oui.
Puisque le but du jeu chez Deezer, quand il supprime 26 millions de titres, c'est ce que ça représente, hein, 13%. Ouais. C'est de virer, en fait, bah, tous les bruits blancs, les faux albums, les copies, les trucs faits par IA, toutes ces merdes-là, qui viennent, en fait, déjà polluer tous vos résultats de recherche, etc., mais aussi qui viennent polluer les sous qui rentrent chez les artistes. Car toi, tu as été creusé et tu avais des informations supplémentaires sur cette news.
Ouais, je sais plus si on en avait parlé à l'époque ou pas, mais fin de l'année dernière, en fait, Deezer a passé un deal avec Universal Music Group, qui est un des majors, hein, des trois majors de la musique. Et en gros, ils ont un plan qu'ils ont baptisé assez pompeusement artiste-centric, je sais plus quoi. Et en gros, l'idée, c'est que, bah, oui, il faut trouver de la thune parce qu'en fait, là, ils vont devoir payer, en fait, un peu plus ce qu'ils appellent les artistes professionnels. Donc, en gros, c'est les artistes qui sont chez les majors. Ils vont supprimer en fait tous les revenus pour les artistes qui font moins de 1000 streams par an. Alors 1000 streams par an, c'est pas énorme, hein, c'est clair. Si tu fais pas 1000 streams par an, je pense qu'il faut à un moment te demander si c'est vraiment un choix de carrière judicieux. Mais d'un autre côté, bah t'as plein de petits artistes qui s'étaient positionnés sur Spotify, notamment en passant par les distributeurs maintenant qui existent en ligne comme TuneCore et ce genre de trucs là, et qui bah étaient bien contents d'avoir un petit chèque de 50 balles une fois de temps en temps, tu vois. Enfin voilà, ça met du beurre dans les épinards. Bon bah tout ça, ça va sauter. Donc forcément, il y a un besoin de trouver de la thune chez Deezer. Il y a un besoin surtout d'arrêter l'hémorragie vers, comme tu le disais, ces faux tracks en fait, enfin ces espèces de trucs qui polluent en fait tous les services de streaming aujourd'hui. Hein, c'est pas.
Il faut savoir qu'il y a des boîtes qui ont industrialisé le truc, quoi. C'est vraiment
tout à fait. Ben notamment ces distributeurs qui jouent un petit peu avec le feu par rapport à ça. Enfin bref, il y a une grosse problématique en ce moment très très large et très très vaste. Il faudra peut-être qu'un jour on fasse un peu le point là-dessus au niveau du streaming, notamment à cause des distributeurs intermédiaires et puis aussi de la pression de plus en plus des majors sur ces différentes applications comme Spotify, Apple Music ou Deezer. Donc voilà, effectivement, il y a une suite logique par rapport à ça qui est, bah aujourd'hui, il faut qu'on trouve de la thune, donc on va virer ces trucs qui rapportent finalement pas beaucoup, mais qui mis bout à bout vont faire quand même une jolie somme. Je pense qu'il parlait quand même de 40 millions qu'ils pourraient récupérer, ne fût-ce qu'en supprimant donc l'accès à ces tracks qui font moins de 1000 streams par an.
Ça dégage, allez hop. Et d'ailleurs, c'est moi qui vais faire la transition car.
Eh ben vas-y.
Pour faire ces petits ménages, je leur souhaite bon courage. Ouais, ouais, grâce au truc dont nous allons parler maintenant, qui sont les arrivées de deux apps qui sont disponibles sur le web, qui s'appellent Udio et l'autre s'appelle Suno. C'est sorti la même semaine, je trouve ça très rigolo. Je pense que ça doit s'épier fortement dans les deux sociétés en question. Je vous ai linké les papiers qui sont disponibles sur Ars Technica, qui concernent les deux boîtes en question. Udio et Suno, qui sont en fait des générateurs de musique via IA, qui viennent de lancer leur site respectif et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc ça me fait beaucoup rire puisque on vient de parler de la problématique chez les plateformes de streaming. Et là, les mecs proposent des outils qui te permettent de rentrer un prompt avec « fais-moi un morceau de K-pop avec tel son et puis tel word ». Et tu peux même mettre carrément toutes les paroles que tu as fait. Et ça va tout te générer. À la fin, tu peux même lui dire « au fait, fais-moi la pochette ». Et bisous, t'as le package complet, et pendant que tu faisais cuire des pâtes, même t'as même pas eu le temps en fait. Donc Suno, en fait, ça veut dire écouter en hindi. Ça a été créé en 2023 à Cambridge, dans le Massachusetts, et c'est fait par des mecs qui en sont pas à leur coup d'essai, puisque le Michael Schulman, Monsieur Kutsko, etc. C'est des gens qui ont en fait travaillé chez Meta et TikTok avant. D'accord. Et il faut savoir que du côté de Udio, c'est des gens de chez DeepMind en fait. Donc voilà, des gars qui connaissent un peu leur métier, on va pas se mentir. Suno, ils ont été un peu plus malins parce qu'ils ont déjà des partenaires assez violents du style Microsoft, qui aime pas du tout l'IA, hein, comme chacun sait cette année, qui a déjà intégré en fait le moteur dans Bing Chat en décembre dernier. Et là, on en est à la version 3 du modèle de Suno. Donc je vous ai linké, comme je disais, les deux sites et vous allez voir et juger directement sur pièce la qualité des morceaux qui sont générés. Alors évidemment, on peut donner le style. On peut dire, moi, je veux un truc country, je veux des trucs pop et tout. Oui, alors, ça oblige à rester dans des grandes lignes, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de finesse. Des fois, c'est vraiment immonde. Mais des fois, bah, c'est flippant de réalisme. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux. En plus, quand je disais, vous mettez les... Parce que je n'ai pas été très clair quand je disais, vous mettez les paroles. Mais ça veut dire que vous allez avoir une voix que vous pouvez définir dans votre prompt qui va chanter sur le truc.
Oui, tout à fait.
Et le morceau finalisé, bah, vous fait un mix de tout ça avec la track principale, la voix, la totale, et il y a vraiment des trucs qui sont flippants, et il y a des trucs qui sont très rigolos. Moi, je me suis tapé une barre de rire tout à l'heure, je l'ai mis dans le chat du Discord de Geekzone, où les mecs, ils ont fait une version théâtrale complètement barrée en musique de Dune. Mais du coup, c'est très rigolo. Et ça, avec une voix d'opérette et tout, c'est n'importe quoi, évidemment. Mais pour les mêmes, ça va être parfait. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça va provoquer plein de problèmes périphériques qu'on n'a pas fini de galérer, quoi.
Ouais, et puis il y a toujours cette problématique de la source, en fait. Hein. C'est toujours des boîtes noires. On ne sait pas sur quel morceau ils ont entraîné leurs IA, etc. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de transparence par rapport à ça.
C'est d'autant plus rigolo, puisque en fait, là, pour l'instant, ils ont communiqué, en fait, sur plein de trucs. Donc on a tous les modèles qui ont été utilisés pour les paroles, par exemple, pour certains trucs des voix. En revanche, les modèles utilisés pour la génération de la musique elle-même ont toujours pas été révélés. Ouais, et je crois que ça n'a pas été révélé chez Audio, Suno, je sais, je suis pas sûr. Mais du coup, c'est effectivement très problématique. Mais en plus, comme il y a une concurrence en termes de business chez ces gens-là, ils ont encore moins envie de dire comment ils font, tu vois. Donc ça va être très compliqué d'aller choper les infos.
Ouais.
Je ne sais pas comment ça va finir. En tout cas, il y a eu un truc très marrant chez Suno, c'est qu'ils ont fait une ils ont fait un morceau qui est devenu viral avec le texte de la licence d'utilisation de soft du MIT avec une nana hyper triste qui chante au piano et le texte c'est la licence du MIT, tu vois. C'est vraiment très drôle. Donc bon, voilà, au moins on rigolera, hein. Ça, on perdra notre travail, vous les musiciens, mais
ouais. C'est ce qui m'inquiète le plus, ça va être la réaction des majors par rapport à tout ça, en fait, parce que ils ont l'habitude de déjà réagir trop tard et puis surtout de réagir généralement mal. Et j'ai peur qu'en fait, ce qui soit problématique soit finalement pas ces générateurs en soi, mais plutôt la réaction derrière des gros labels de musique qui vont dire non, maintenant ça suffit les conneries, ou au contraire qui vont utiliser ces trucs là pour accentuer encore leur production et nous inonder de trucs. Donc je regarde ça d'un œil attentif, mais un petit peu inquiet quand même malgré tout, même si ça reste effectivement super fun. Enfin voilà, c'est rigolo de se dire en 3 minutes t'as un morceau complet que tu peux aller limite sortir et puis voilà, basta quoi.
Ça va être rigolo, surtout que derrière, vu les mecs qui sont adossés à ces boîtes là les majors, ils vont avoir de quoi boxer. Enfin je veux dire, c'est pas des petites boîtes sur lesquelles ils peuvent marcher avec le talon dédaigneusement, tu vois. C'est des mecs qui ont plus de pognon qu'eux, donc ça va être assez rigolo à voir, quoi.
Mais justement, avec la problématique des boîtes noires, ils ont un argument en fait qui est bah nous on est persuadés que vous avez pillé notre catalogue pour entraîner votre
Je pense qu'ils vont être sur des modèles mathématiques, parce que ça n'a pas de sens en fait de partir sur des samples par exemple, tu vois.
Non, mais ce que je dis c'est que ça va être le leitmotiv des majors, ce qu'ils vont balancer, quoi. Ça veut dire non, nous on veut notre thune aussi parce que vous êtes inspiré de bidule ou de machin.
Après ça va se démonter facilement,
des procès en plagiat, etc. Enfin bref, je sens qu'on n'a pas fini de rigoler, effectivement. Sorry pour la parenthèse supplémentaire, mais c'est un sujet qui me parle un petit peu.
Je m'en doute.
On reste dans les apps et on termine avec Secret Inbox pour Fastmail. C'est pour Fastmail ou c'est développé par les gens de Fastmail?
Non, c'est fait pour Fastmail, donc ça n'a d'intérêt que si vous avez Fastmail, et ça n'a d'intérêt que si vous avez macOS et iOS, mais je voulais en parler quand même, parce que c'est mon cas, je fais ce que je veux dans ce podcast, et en plus ça permet de rappeler que Fastmail fait partie des rares clients mail qui ont une API ouverte, où tu peux développer tes applications directement en utilisant leurs outils. Du coup, c'est une app en plus extrêmement simple, hein, ça va aller vite. Ça sert en fait à gérer une feature de Fastmail qui est hyper pratique, qui s'appelle les emails masqués. Vous en avez, il y a plein de trucs qui proposent ça maintenant.
C'est vrai qu'en natif, c'est pas idéal, quoi.
Bah voilà, il faut aller dans l'interface. Quand tu veux en créer un, il faut aller dans l'interface. Bah, t'es obligé en même temps, tu vois. Tu vas pas l'inventer. Donc, c'est obligé.
Tu peux le générer via OnePassword maintenant, ce qui est quand même vachement plus simple.
Ouais.
Mais en revanche, quand tu veux les gérer derrière, t'as juste une grosse liste et puis il faut que tu cliques sur chacun. Tu sais pas forcément à quel compte c'est lié parce que parfois tu peux en avoir un qui est utilisé par plusieurs comptes. Enfin, bref, je trouve pas ça ultra facile.
Ah bah après, le fait de pas savoir à quel compte c'est lié en même temps, c'est un peu ton problème. Eux, ils peuvent pas savoir. Ils ont juste généré le mail. Hein, donc, si tu l'as, toi, tu peux le savoir derrière quand tu vas gérer tout ça proprement avec OnePassword. Car nous sommes des gens civilisés ici. Nous utilisons des produits qui font le boulot. Mais fondamentalement, eux, ils peuvent pas te dire à quoi c'est lié. C'est d'autant plus con qu'en plus, cette feature, elle est dans la création d'alias. Donc, maintenant, dans l'interface de Fastmail, tu as My Email Address et Mask Email. Quand tu es en anglais, j'utilise l'interface anglaise.
Pareil.
Et dans l'autre, tu peux laisser des notes, en fait. Tu peux dire, bah voilà, ça, c'est mon alias machin, et je l'utilise pour tel ou tel truc, tu vois. Et ça, c'est vachement pratique. Et l'autre, en fait, bah, sauf si j'ai loupé l'option, mais j'ai pas vu. je vois pas où est-ce que tu peux rajouter des détails. Donc, c'est un petit peu débile de pas l'avoir. Ils l'ont rajouté. My bad. Je viens de vérifier en direct, les amis. Il y a une description maintenant. Ils ont rajouté la description. Donc, tu peux rajouter la même chose exactement que dans les adresses qui sont des alias. C'est à peu près le même système, en vrai, hein, finalement.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, ça, c'est très pratique. Et qu'est-ce qu'a fait cette petite application? Bah, elle va se connecter sur l'API qui gère tout ça pour vous permettre d'avoir la liste sous les yeux et de créer directement avec sans rentrer dans l'adresse dans le site web. En fait, vous êtes sur un site à la con, vous voulez vous connecter, j'en sais rien moi, sur Bilibili, vous n'avez pas de compte sur le truc, c'est un vrai site, hein, pour ceux qui connaissent pas. c'est le YouTube chinois. Et voilà, vous pouvez créer un mail bidon et avoir directement votre adresse depuis votre barre de tâches. C'est vachement pratique. Voilà, c'est tout. Ça sert juste à ça. Mais ça fait partie des choses qui sont pas mal pour pas se faire spammer à l'infini par des sites que vous ne connaissiez pas bien et où il fallait définitivement pas laisser son vrai mail.
C'est clair. Voilà, on passe du côté de la culture et je voulais vous toucher un mot très rapidement de la série Fallout. On fera une critique plus poussée la semaine prochaine, mais on voulait quand même en parler parce que tout est sorti en fait. Hein, les 8 épisodes sont disponibles sur Amazon Prime. Une série donc qui a été créée par Graham Wagner et Geneva Robertson Dvorak. Elle a pas un nom facile à prononcer.
Oui, j'ai rien compris. Bon courage.
Inspiré donc du jeu de rôle vidéo, hein, évidemment, de la franchise Fallout. Alors, dans quelle mesure est-ce que c'est respectueux du lore, tout ça? Moi, je suis pas un gros connaisseur du lore de Fallout, donc je peux pas vraiment juger.
Et moi, j'ai pas vu la série, donc je peux pas juger non plus.
J'ai metté que 2 épisodes pour le moment, et je dois bien avouer que je m'éclate bien. J'avais un petit peu peur parce qu'il y a du Jonathan Nolan et Lisa Joy derrière, mais heureusement, ils ne sont que producteurs exécutifs, les créateurs et showrunners de la série, donc c'est ceux que j'ai cités, que je ne vais pas citer vu que j'ai du mal avec le nom. Et visiblement, ils sont adoubés par les gens de Bethesda, donc voilà, tout va bien. Et si vous n'avez pas encore jeté un œil, bah faites-le, et puis on en reparlera la semaine prochaine pour faire un petit débrief complet. Mais pour le moment, moi j'accroche bien, je trouve que c'est plutôt nerveux. Alors ne mettez pas vos enfants devant en revanche, parce que c'est quand même assez gore. Je sais plus si la série vidéo, jeu vidéo était gore.
Ah oui, c'est méga gore. Oui,
voilà, non, alors pour le coup, c'est méga gore aussi. Voilà.
Le RPG, tu as de tout, hein. Tu as de la prostitution. C'est pour ça d'ailleurs que le truc est légendaire. Hein. De la prostitution, du meurtre, des découpages de membres.
C'est ça.
C'est fait partie du truc. Et puis c'était très drôle en même temps. Donc c'était ça aussi qui faisait flipper les gens en disant est-ce qu'ils ont gardé l'humour de la série.
Bah écoute, vu que l'un des deux showrunners, donc Graham Wagner, a bossé sur des séries comme Silicon Valley, The Office, etc., Portlandia même, il y a effectivement de l'humour, je te confirme, en tout cas dans les deux premiers épisodes. Et c'est pas l'humour envahissant ou mal placé, je le trouvais plutôt bien senti. Je trouve les personnages vraiment très très chouettes aussi, le cast vraiment cool, ça fait toujours
la
plaisir.
La nana, j'ai oublié son nom, mais la
Cornell, là.
Ouais, rien que pour elle, je fais donc, de toute façon, je vais regarder des épisodes, je serai présent, voilà.
Et t'es très bien dans Yellow Jackets, dont on avait parlé aussi dans Geekzone. Il y a Matt Berry qui apparaît dans la série, que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, il y a évidemment Walton Goggins qui joue le rôle d'une ghoul. Je sais pas si ça s'appelle des ghouls aussi dans le jeu vidéo, je me souviens plus.
Il me semble, après j'ai joué.
Enfin, c'est les mutants, quoi. Voilà. Donc, qui a vraiment un perso. Perso bien fandard. Bref, voilà, je vous ai vous en touché un mot, on en reparlera la semaine prochaine quand Caf et moi on aura vu tous les épisodes et qu'on pourra débattre de leur fidélité ou pas à la franchise jeux vidéo. En tout cas, les critiques sont plutôt bonnes, donc voilà, tentez si vous n'avez pas encore jeté un œil. Et puis je voulais vous parler en vitesse aussi d'un documentaire, parce que moi c'est une affaire que j'avais pas du tout suivie, j'en avais même pas entendu parler. Donc il y a eu depuis MeToo, hein, et puis particulièrement depuis 2018 en fait, beaucoup de bruit autour d'un certain Dan Schneider, qui est un monsieur qui était l'homme à tout faire, enfin le monsieur successful de Nickelodeon, hein, donc cette chaîne pour les enfants aux États-Unis. C'est lui qui a lancé des carrières comme Ariana Grande notamment, et puis plein d'autres gens encore avec des séries à succès. Et donc bah on a appris quand même qu'il y avait des choses pas très très nettes qui se passaient dans les coulisses, pas mal de choses qui aujourd'hui choquent beaucoup quand on revoit des sketchs avec les enfants et qu'on projette ça dans l'esprit d'un adulte. Il y a des choses quand même qui sont pas très très nettes. Il y a notamment pas mal de pédophiles en fait qui tournaient autour du tournage, dont un qui a été chopé, mais qui est retourné bosser sur des émissions pour enfants sans que ça pose problème.
Super. Donc,
voilà, il y a 4 épisodes en fait qui expliquent un peu toute l'histoire autour de Nickelodeon et de ses émissions un petit peu sulfureuses rétrospectivement. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sorti un 5e épisode en fait qui a été diffusé quelques jours plus tard, un mois plus tard à peu près, où en fait ils font une espèce de débrief de post-mortem en fait, parce que bah forcément la série elle a provoqué des réactions. Il y a des acteurs qui étaient des jeunes acteurs à l'époque qui voulaient pas s'exprimer, qui finalement se sont dit merde, je vais quand même y aller, je vais quand même aller aussi donner ma version des choses. Il y a pas mal de choses qui ont bougé en fait avec la sortie du documentaire, et donc ils font un peu le bilan de tout ça dans le 5e épisode qui est plus une espèce d'entretien avec différents protagonistes. Donc je trouvais ça assez intéressant. Ça s'appelle Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, et c'est disponible chez Bob VHS et sinon c'est sur Max, mais je crois que Max c'est pas facile de l'avoir ici.
Non, c'est le bordel.
Discovery Plus peut-être, mais sinon Bob VHS c'est toujours une adresse.
Notre ami Bob, hein, les gars. Voilà, hein, faut faire des efforts un peu de temps en temps.
Allez, on passe du côté de la tech avec un rachat.
Ah oui, les rachats, c'est toujours la vie.
ça faisait longtemps.
Surtout des rachats de produits comme ça. Ouh la vache, on avait vachement envie que ça se fasse racheter, ça dit long. je vous ai linké la news hein, pour essayer de comprendre ce truc un peu bizarre de chez Ars Technica, Again et The Verge, puisque nos amis de chez Automatic, les gens qui maintenant ont un putain de portfolio, mais surtout le plus connu, c'est quand même WordPress, se sont payés Beeper. Alors, Beeper, on en a parlé. Beeper, c'était la boîte qui voulait faire un logiciel de communication sur Android qui permet de se connecter à iMessage.
Oui, tout à fait.
Et c'était bien de la merde.
Oui.
C'était vraiment un truc complètement...
On avait bien ri.
On avait bien ri. Quand on avait regardé la solution technique, on s'était dit, mais c'est complètement con. Évidemment que ça ne va pas marcher. Évidemment que déjà, Apple va vous défoncer. Et en plus, ils ont raison de vous défoncer puisque le truc était sécurisé, mais pas du tout. En fait, c'était n'importe quoi. Donc, je vous rassure, hein, ça, ce truc-là, il est mort et enterré. Évidemment, Apple les a bien aidés, mais au bout d'un moment, les mecs se sont rachetés de neurones et ils ont fait genre, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée finalement, peut-être arrêter. Mais bon, ils ont quand même une... comment dirais-je ? Ils avaient une velléité de faire un client qui permet de gérer plein de softs différents de messaging, ce qui est de toute façon déjà une galère. Et pour une raison qui m'échappe, parce que je ne comprends toujours pas ce qui se passe dans la tête du cerveau de Matt Mullenweg qui, depuis des années, a priori, veut faire cette espèce d'application qui va... permettre de communiquer avec plein d'apps en même temps, puisque c'est un truc... qui quand même n'est pas nouveau, c'est pas une idée nouvelle. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, quand on était jeunes, on avait Trillian, on avait Pigdin, on avait déjà des trucs qui nous permettaient de faire du MSN, du bidule, du machin. On sait comment ça s'est terminé. Hein.
Bah oui, tout le monde a fermé son protocole, et puis voilà, bisous.
Voilà, et puis ça marche pas. Enfin, les trucs sont pas compatibles, ils ont pas les mêmes fonctionnalités. Là, les mecs, ils veulent faire fonctionner genre du Discord avec du WhatsApp. Il y a un moment, ça ne va pas marcher, les gars. Ce n'est pas possible. Et c'est même pas, il faut ouvrir les protocoles. Non, c'est pas fait pour. Les interfaces font pas les mêmes choses. Enfin, si à un moment vous utilisez le truc qu'il faut utiliser, je trouve ça un peu bizarre.
Oui.
Mais pour vous dire à quel point le mec est quand même très très, il est droit dans ses bottes pour le faire, c'est qu'il a déjà racheté avant Beeper un truc qui s'appelait Text.com qui sert dont le but était exactement de faire ça. Hein. Du coup, là ils se disent en plus avec les trucs autour d'Apple, on va peut-être pouvoir le faire ce bridge avec iMessage. Je crois qu'ils ont pas bien vu les mémos puisque iMessage n'est pas dans les trucs visés par les différentes actions contre Apple. Bref. Donc voilà, c'est un rachat quand même qui leur a coûté 115 millions, si je dis pas de bêtises. Je pense que la boîte en vaut 20 dollars, hein, évidemment, même pas millions. Donc je sais pas pourquoi ils ont dépensé autant d'argent pour faire ce truc-là, mais on va suivre ça évidemment avec un intérêt de geek. Hein, mais je vous cache pas que ça fait partie des choses où je suis relativement, comment dirais-je, dubitatif, voilà. Mm-hmm. Hein, on va dire ça poliment. Mais bon, je comprends l'intérêt de l'utopie. Maintenant, techniquement, c'est compliqué. Deux, je sais même pas si c'est souhaitable.
Ouais.
Donc, on en reparlera si ça explose pas en vol. Et puis, si ça explose en vol spectaculairement, on en parlera quand même. Comptez sur nous.
Parlons d'exploser en vol et quelques petits problèmes chez Intel en ce moment.
Ah, bah oui, oula, c'est pas mal ça. C'est transition professionnelle.
T'as vu,
tu ferais
peu.
Pas des podcasts un peu, toi? Oui, ils nous font rêver, Intel. Écoute, puisque là, on a un souci depuis des mois avec des crashs sur leur processeur Core i9, les 13e et 14e génération. Et Intel a finalement dit, il y a peut-être un problème, on va enquêter. Alors, pour vous dire, ça fait des semaines que la blague dure et que du coup, les forums de Intel sont pleins de messages autour de ça. Il y a des témoignages sur Reddit. Il y a les mecs de chez Epic, on en ras-le-bol puisque tout le monde fait genre « Mon Fortnite, il plante, nanana, alors que j'ai un PC tout neuf, génial. Ah, t'as un PC tout neuf, c'est intéressant, raconte-moi ce qu'il y a dedans. » Et généralement, il y a toujours la même chose. Donc, les mecs, au bout d'un moment, ils se sont dit « il y a peut-être quand même un fil conducteur là dans votre histoire. » Alors, il y a clairement un problème électrique derrière tout ça. Pour l'instant, il y a une solution qui consiste à booster de manière substantielle le voltage du processeur pour qu'il arrête de planter tout bêtement. Hein. Les gens qui sont un peu de la partie disent que de toute façon, ce truc-là était quand même un peu designé rapidement et qu'ils sont pas très très étonnés que ça déconne puisque Intel avait baissé le voltage pour essayer de faire genre « Non mais regardez, il consomme pas trop, ça va bien se passer, regardez, c'est pas une plaque chauffante. » Si. Donc il y a un souci là-dessus. On attend évidemment les infos officielles de la part d'Intel, mais en attendant, bah, c'est quand même problématique pour plein de gens qui avaient acheté des bécanes un peu haut de gamme et qui se retrouvent avec des usines à plantage, ce qui est jamais agréable quand t'es dans ton jeu, de te faire tège. On suivra ça aussi, mais bon, sur Geekzone, ça fait des semaines, des mois, des années maintenant qu'on vous dit d'acheter de l'AMD.
Oui.
Donc bah, prenez vos responsabilités, c'est tout ce que j'ai à dire.
On termine ce podcast et cette section tech avec un nouveau CPU chez Google.
Ouais, qui se met à jour avec un nouveau truc qui s'appelle le Google Action. Tout avec un X, hein, c'est pas Action.
Oui, Action. Non, faut pas déconner non plus.
Action. Comment tu dis en anglais Action?
Action.
Avec un X,
comme ça. Action, ouais.
Ouais, c'est le bordel. Hein. C'est un, évidemment, sans surprise, un CPU qui est basé sur les tech ARM, c'est-à-dire le ARM Neoverse V2. C'est évidemment pour mettre dans leur serveur. C'est un truc qui annonce 50% de perf en plus par rapport au produit X86 et surtout une efficacité énergétique jusqu'à 60% supérieure. Le but, c'est de consommer moins, chauffer moins et faire plus d'opérations par seconde, comme d'habitude. Et là, pour le coup, Google n'a pas du tout le lead sur l'histoire, puisqu'ils sont même à la bourre. Il y avait déjà des choses qui étaient annoncées chez Microsoft qui bossent avec les mêmes techs, hein, d'ailleurs, sur ces Cobalt 100 pour tous ces serveurs Azure. Amazon, ils ont leur Graviton 4. Tout le monde y va de sa nouvelle petite puce ARM. Nvidia, ils ont leur truc, évidemment, je vais même pas revenir dessus. Là, Google, ils sont très fiers parce qu'ils ont aussi pas fait. Tout le monde a fait oui, bah alors, bah c'est super, vous avez pris la plateforme ARM, puis vous l'avez mis dans vos serveurs. Vous avez rien fait vraiment de super incroyable en termes de tech dans l'intégration du truc. C'est pas un vrai custom chip. Et Google, ils ont fait si, on a un microcontrôleur personnalisé. Donc le truc s'appelle Titanium et donc ça va gérer le réseau, la sécurité, les flux vers les solutions de stockage. Donc ils ont quand même un peu travaillé, évidemment. Hein. Et comme il y avait les annonces Google Cloud, il y a eu plein d'autres trucs dont je ne vais pas vous parler, qui ne sont pas passionnants. Si vous êtes vraiment geek un peu barbu, je vous encourage à aller faire quelques recherches sur le net, puisqu'évidemment, il se passe des choses. Et l'autre pan de l'information autour de Google et le cloud, c'était de vous mettre un petit jingle IA et de vous raconter tous les produits où ils vont rajouter Gemini. Je peux vous résumer à l'histoire, hein, c'est partout. Voilà.
Oui, c'est ça.
Donc c'est pareil, c'était pas très intéressant. Puis une fois qu'on s'est tapé un an de copilote à toutes les sauces chez Microsoft... Ouais. L'effet de surprise et de rigolade est un peu
modulisé, oui.
Tu vois, alors, le comique de répétition, on c'est aime ça. Bien, mais là, évidemment, c'est pas très très drôle. Et puis en plus, Gemini, ça me fait mal de le dire, hein, mais enfin, ça fait mal. Tu t'attends que Google sorte un truc qui soit largement au level, et pour l'instant, ils sont quand même pas mal derrière ce que fait Microsoft avec Copilot et les trucs qu'ils ont eu chez nos amis d'OpenAI. Donc c'est un peu tendu la situation sur le sujet chez nos amis. Donc on va suivre évidemment tout ça. En tout cas, c'est bien que toutes ces techs débarquent. Je vous confirme qu'en 2024-2025, on va en bouffer du processeur ARM, puisque on parlera dans quelques semaines. Je vous ai pas trop teasé, mais Qualcomm est en pleine communication autour de toutes ces plateformes ARM qui sont compatibles X86 et de toute une génération de portables Windows. Mais sur ARM, qui serait enfin pas de la merde. Je n'en parle pas parce que moi j'attends les tests. Voilà, les communiqués de presse, ça rend pas les coups, les gars.
Non, c'est clair.
Donc on verra, et surtout là où ça va être hyper drôle, c'est de voir à quel point la couche d'émulation va galérer, parce que là je vois déjà des youtubeurs tech. nos comments qui sont en train de nous expliquer ça va être génial parce que ça sera comme les trucs Apple machin et tout. Ils ont absolument pas compris ce qu'était Rosetta 2 déjà. Donc quand tu commences à parler d'émulation et de Rosetta 2, tu fais genre ah là 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 là, t'as loupé des épisodes mon pauvre ami, tu vas avoir des surprises. Donc on va voir ce que ça donne chez nos amis de Windows. On va attendre encore un petit peu, et si ça marche bien, tant mieux, hein, parce que voilà, moi j'ai rien contre un bon portable Windows qui fera enfin son boulot, mais si ça marche pas, comptez sur moi, on aura peut-être même des nouveaux jingles s'il faut. C'est pas grave.
Et c'est la fin de ce 291e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour un nouvel épisode le jeudi soir, donc pour les abonnés Patreon, qu'on remercie d'ailleurs au passage, et le vendredi matin pour les autres. Et puis, je sais pas si tu voulais rajouter un truc en
non,
particulier.
Non, tout va bien. Tout va bien. Je vais aller ne pas manger un sandwich avec un fracturé et ça va bien
boire
se passer.
Boire ta soupe, oui. Voilà.
On s'éclate, les amis. Nous, on s'amuse. Hein. On connaît les trucs pour bien rigoler. Qu'est-ce que vous voulez
nous demander,
si vraiment vous ennuyez dans votre vie, vous nous demandez. Moi, je pense qu'en fait, le karma.
On a la trottinette, on a la fracture de dents, on a plein de trucs.
Non, franchement, c'est des efforts. On fait tout ça pour vous, en fait. Hein. Ou alors le karma fait tout ça pour nos gueules, pour qu'on ait un truc à dire dans l'intro et l'outro du podcast. Je sais pas, j'ai des doutes, mais par contre, il faudrait que ça cesse finalement. Hein.
C'est clair. Bon, allez, bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
À plus, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Mais attends, c'est quoi le PIB ?
La fiscalité, ça fonctionne comment ?
La monnaie, ça représente quoi exactement ?
Toi, tu sais comment ça marche une banque ? La dette publique, est-ce que c'est vraiment un problème ?
Il y a des crises financières. L'inflation, tu sais comment ça marche ? La banque centrale, c'est quoi exactement ? Tu as la croissance, tu as la récession, est-ce que la finance verte, c'est quoi ?
Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Mickaël Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'Econocast, c'est tous les mois sur geekzone.fr.